Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'Intégral Sport. On est ensemble jusqu'à 20h. Une émission emmenée aussi par un homme aussi grand par la taille que par son esprit, j'ai nommé Stephen Brun. Salut Stephen.
Bonsoir Arnaud, bonsoir tout le monde.
Et en ce vendredi soir, on a un beau programme avec une heure de football pour commencer. Et le Paris Saint-Germain et Nantes qui arrivent ce soir à Tel Aviv en Israël pour disputer dimanche le trophée des champions. Premier match officiel de la saison. Et on file sur place dans un instant, retrouver nos envoyés spéciaux en Israël pour les dernières infos. Et notamment la composition du groupe parisien pour ce premier match officiel. Monaco, l'ASM dans 4 jours disputera le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Match aller à Louis II face au PSV Eindhoven. Une rencontre à suivre évidemment sur RMC. Les Monégasques qui n'ont pas été rassurants lors de leur dernier match amical. Une défaite 3-1 contre Southampton. Dans une demi-heure, le nouveau milieu du Paris Football Club, Paul Lann, sera avec nous. La Ligue 2 débute demain. Le PFC jouera lundi en décalé à Sochaux. Le PFC candidat à la montée depuis plusieurs saisons. Et c'est également le cas pour la saison 2022-2023. Les dernières infos au transfert et un point aussi sur la situation de Paul Pogba, l'international qui pourrait être privé de Coupe du Monde à cause d'une blessure. Appelez-nous au 32-16, supporters parisiens ou monégasques pour réagir. C'est parti pour l'Intégral Sport. Le Paris Saint-Germain va donc disputer son premier match officiel dimanche à 20h face au FC Nantes, le trophée des champions. Vous le savez, le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la Coupe de France. Et comme l'année dernière, ce trophée des champions se déroule à Tel Aviv, en Israël. Sur place, Arthur Perrault, envoyé spécial, est avec nous. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonsoir à tous.
Salut Arthur.
Bon, raconte-nous déjà un petit peu le panorama. Il fait beau, j'imagine, à Tel Aviv, la température, tout ça.
Il fait très très beau. Avec Timothée Mémon, on est arrivé en début d'après-midi à Tel Aviv. Déjà 35 degrés. Alors par contre, c'est pas la même chaleur que la semaine dernière du côté de Tokyo et d'Osaka. Il y a beaucoup moins d'humidité, donc ça va sans doute faire tout drôle aussi aux joueurs parisiens, parce que cette humidité du côté du Japon était quand même très très embêtante dans la préparation parisienne.
Tel Aviv, tu connais, Stéphane ?
Un petit peu, j'ai mis les pieds quand je joue au basket, quand quelques matchs de Coupe d'Europe là-bas. C'est très très agréable, il fait bon vivre à Tel Aviv. Et c'est vrai que la chaleur est totalement différente, c'est une chaleur sèche. Ouais. Donc l'effort aussi est compliqué sous cette chaleur-là. Mais écoute, je vois qu'Arthur et Timothée ont pris leur repère. Ils vont passer un bon moment, les deux moustiques.
Surtout Timothée qui connaît les bonnes adresses, évidemment, on le salue.
Exactement.
Tu es bien arrivé, Arthur. Les joueurs du PSG ne vont pas tarder à atterrir à Tel Aviv. Qui a fait le déplacement ?
Un groupe de 22 hommes sélectionnés par Christophe Galtier. Des décisions qui ont été prises après l'ultime séance d'entraînement ce matin du côté du camp des loges. Parmi les joueurs retenus, je vais vous en citer quand même quelques-uns. Neymar, Messi, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Marco Verratti ou encore Nordi Mukiele, dernière recrue du mercato parisien. À l'inverse, Hugo Ekitike va lui rester à Paris pour poursuivre sa préparation. L'objectif, c'est d'être à 100% pour lui pour la reprise du championnat. Voilà, on nous explique qu'il a encore besoin d'un peu de temps, donc il va se concentrer sur sa préparation du côté de Saint-Germain-en-Laye. Et puis il y a aussi une autre absence de taille, c'est celle de Kylian Mbappé qui est suspendu pour ce choc. L'attaquant parisien ne devrait pas débarquer en Israël comme cela a pu être un temps évoqué. Donc voilà, il y a des absences de taille, mais il y a quand même des choses intéressantes, et notamment la venue de Nordi Mukiele, la dernière recrue du mercato parisien.
Oui, c'est la principale information, effectivement, Mukiele, oui. qui est là. Alors, c'est vrai que tu nous parlais du Japon il y a quelques instants de ce taux d'humidité très élevé là-bas. En Israël, voilà, avec ces températures et ce temps plutôt sec. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'écologie. Là, l'empreinte carbone du Paris Saint-Germain est pas top. Mais Arthur, ouais, pour parler sportif, se préparer entre le Japon, on l'a dit, courir avec ce taux d'humidité, c'est pas évident. Là aussi, dans une situation où il fait chaud au bord de la Méditerranée en Israël. Qu'est-ce qu'on en dit un petit peu de tout ça pour préparer une saison importante avec une Coupe du Monde en plein milieu ?
Alors, c'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup de concentration du côté du Japon. D'ailleurs, tu parlais de cette humidité une nouvelle fois. Le programme au Japon a été ajusté un peu au jour le jour pour permettre aux joueurs petit à petit de vraiment se concentrer sur cet objectif, ce premier objectif qui est le trophée des champions. D'ailleurs, Christophe Galtier l'avait indiqué lors de sa première conférence de presse ici du côté du Japon, pardon, après le match face au Kawasaki Frontale, en disant on est là surtout pour se préparer pour le trophée des champions. Et c'est vrai que on le sent, les joueurs sont rentrés dans leur bulle, le staff aussi de Christophe Galtier est vraiment totalement concentré sur cet objectif. Il y aura d'ailleurs une séance d'entraînement de prévu demain pour le groupe parisien, ce sera entre 18h30 et 19h30, mais voilà, c'est vraiment un groupe totalement concentré, qu'il était déjà un peu lors du dernier match face au Gamba Osaka, mais là les choses sérieuses commencent. C'est quand même le premier match officiel du Paris Saint-Germain et surtout le premier gros objectif pour Christophe Galtier, puisqu'on le rappelle quand même que le PSG avait perdu ce titre l'année dernière avec une défaite face à Lille, 1-0.
Sur cette préparation aux quatre coins du monde, vrai débat ou faux sujet?
Non, c'est pas un débat pour moi. Les joueurs sont habitués à faire ce genre de prépa là. Après, on pourra en reparler si le début de saison se passe mal du côté du Paris Saint-Germain. Arthur a raison de souligner l'importance de ce match pour le Paris Saint-Germain et pour Christophe Galtier. Alors les gens diront le trophée des champions, un trophée en bois, certes, mais quand vous êtes un nouveau coach comme Christophe Galtier, qui a été plutôt, il y a eu beaucoup d'avis divergents sur l'arrivée de Galtier au Paris Saint-Germain. Tout de suite, il faut montrer que on a les épaules pour tenir le Paris Saint-Germain. Oui, l'année dernière, il y avait une défaite contre Lille, trophée des champions. On rappelle que la configuration de l'équipe était très loin de ce qu'elle va être ce week-end face à Nantes. Il y avait très peu de joueurs titulaires qui étaient présents la saison dernière. Là, il va y avoir sûrement l'équipe type moins Kylian Mbappé qui est suspendu. C'est un match très important. Il y a deux visions des choses. Christophe Galtier qui accorde une grande importance. Et de l'autre côté, eh ben Nantes, parce qu'il y a quand même une équipe qui joue contre Paris Saint-Germain, qui est le football club Nantes Atlantique. Et Comboiré, lui, qui prend beaucoup de recul sur ce match-là, qui considère comme peut-être un cinquième match de préparation pour ces garçons, qui ont encore besoin de travailler. Donc, pour le Paris Saint-Germain, mine de rien, ce trophée-là, il peut dire beaucoup de choses sur la saison, même si on va encore nous rabâcher la saison du PSG démarre au mois de février sur les matchs couperets de Champions League. Mais pour Christophe Galtier, c'est très important ce premier match contre Nantes.
Et pour aller dans ton sens, Stephen, et d'ailleurs avec Timothée, on en parlait avec quelques ressortissants qui étaient dans l'avion avec nous, qui nous disaient tous, mais en fait, ça va être un match facile pour le Paris Saint-Germain. Mais la réalité, c'est que non, parce qu'en face, on a un groupe qui se connaît par cœur. Il y a eu peut-être un gros changement dans cet effectif nantais pour l'instant durant le mercato. C'est le départ de Colomouani, remplacé par Mostafa Mohamed. Donc, ce groupe-là se connaît par cœur. Il y a des automatismes. Peut-être que eux aussi physiquement sont prêts, parce qu'ils se sont aussi préparés pour ce match-là. Donc ça n'a rien d'un rendez-vous facile pour le PSG ici à Tel Aviv.
Et une motivation toute évidente évidemment pour les hommes de Comboiré, alors que le PSG, bon, même s'il y a cette volonté d'aller chercher le trophée, on sait, voilà, parfois ce rapport de force peut...
Bon. Ouais, mais justement dans les propos et cette espèce de renouveau qu'on veut avoir le Paris Saint-Germain, je reprends les termes de moins bling bling, on peut pas cracher sur un trophée des champions d'entrée de jeu. Aujourd'hui, il faut remplir l'armoire, même si elle est bien complète déjà, même s'il manque la coupe aux grandes oreilles. L'année dernière, il y a que le titre de champion de France, hein, on rappelle, hein, défaite en Coupe de France et défaite trophée des champions. Quand on est le Paris Saint-Germain, on aspire au minimum au triplé sur le territoire français. Donc il faut absolument prendre ce trophée des champions.
À quelle formation, quel 11 de départ pour Christophe Galtier, à quel 11 faut-il s'attendre? On a vu cette défense à 3 centraux, notamment, oui, au Japon, Arthur.
Exactement. Alors, c'est vrai qu'on en saura un peu plus demain lors de cette séance d'entraînement dont je vous parlais à 18h30 heure locale. Petite précision importante, il y a une heure d'avance ici en Israël comparé à l'heure française. Et c'est vrai que Christophe Galtier, depuis son arrivée lors des séances d'entraînement, il est dans cette logique de défense à 3 qu'il avait d'ailleurs affirmé lors de sa première conférence de presse du côté du Parc des Princes. Et on peut se dire que la composition qui est était aligné lors du dernier match au Japon face au Gamba Osaka est peut-être celle qui tient le plus la route aujourd'hui et celle qu'on est peut-être amené à voir pour ce match demain, avec, je vous la redonne, Donnarumma dans les cages, la défense à 3, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, ce milieu à 4 avec Hakimi, à gauche, Hakimi à droite, pardon, Mendes à gauche, au milieu Verratti et la recrue Vitinha, Messi juste devant eux en soutien de Neymar et de Sarabia en l'absence de Kylian Mbappé et préféré lors du dernier match du côté de Kalimuendo, exactement. Donc voilà, c'est la tendance. Il y a aussi une forme de logique dans cette composition d'équipe, mais on en aura la confirmation sans doute demain.
Qui on accueille Bilal au 32-16. Salut Bilal.
Salut les gars.
Salut Bilal.
Tu nous appelles d'où Bilal?
Bah, de Nanterre.
Nanterre, oui, juste à France. Pascal Deladieu, on est là.
Ah bah, ça, ça fait plaisir à Stephen, évidemment, Nanterre, au Palais des Sports Maurice Thorez. Bon, tu viens nous parler du PSG, là, quand on entend la compo qui pourrait ressembler à celle du Gamba Osaka, ce premier trophée en jeu, tu te dis, oui, il faut gagner et on a une belle équipe sur le papier?
Ouais, faut gagner, et on va observer la progression de l'équipe par rapport à la nouvelle composition que Galtier veut mettre en place. On a plein d'interrogations hein, par rapport au match amicaux, c'est-à-dire comment va se comporter la défense à 3, comment vont se comporter les latéraux, parce que c'est aussi pour eux qu'il y a ce système censé favoriser les latéraux, et on va regarder aussi devant comment ça va se comporter Neymar, Messi. Donc il y a plein d'interrogations, on a hâte de voir ce match. On sait que Nantes, ils vont pas faire de cadeaux. Donc on est vraiment pressé de voir un match à enjeu parce que ça nous avait manqué.
Et comment tu juges les débuts de la patte Galtier avec Luis Campos, des infos que voilà, on donne aussi hein, sur le site RMC, on parle fin du bling-bling, on parle aussi, voilà, on vient avant 9h, deux entraînements par jour, tout ça, comment tu le perçois?
Bah, pour l'instant, ce que je vois, c'est de la cohérence. C'est-à-dire que les actes, pour une fois, ont suivi les paroles. Donc Campos, il a l'air droit dans ses bottes, Galtier aussi. On va observer avec ce qui va se passer avec les recrues qui vont arriver. On parle de Renato, c'est ça, dans les prochains jours?
Pas d'accord encore, hein, c'est ça Arthur, sur Renato?
Non, exactement. Ça discute toujours pour Renato Sanchez, à la fois sur l'accord avec Lille, mais aussi déjà en termes de salaire. Voilà, il y a plusieurs points de blocage encore sur ce dossier qui avance quand même.
Bilal.
Voilà, bah, on a hâte de que ça se termine, parce que le mercato est un petit peu long cette année. Depuis Mbappé qui a la prolongation jusqu'à maintenant, ça fait une éternité. On a hâte de voir l'équipe au complet et enfin voir du football et voir la patte Galtier, parce que c'est pour ça que on espère qu'il va y avoir des belles choses sur le terrain, parce que moi j'ai hâte de voir le match de dimanche, c'est ça?
Ouais, dimanche 20h à suivre sur RMC. Stephen, tu partages l'avis et aussi un peu l'impatience de Bilal?
Oui. Alors moi j'attends de voir la fin du mercato aussi, mais je sais pas si Bilal, lui, il attend de voir qui va partir du Paris Saint-Germain, parce qu'aujourd'hui les plus grosses interrogations, elles sont pas sur qui va venir au Paris Saint-Germain, c'est surtout qui va partir du Paris Saint-Germain. Ça aussi c'est très important, et pour combien. Mais il a raison de dire que ce schéma mis en place qu'on réclame depuis maintenant un an, avec les trois défenseurs derrière, c'est aussi pour mettre en valeur les qualités de Nuno Mendes et Hakimi, qui sont forcément attirés sur la partie offensive, avec la qualité de centre, avec la qualité de percussion. Moi, c'est pas ce qui m'a rassuré sur les matchs de préparation, notamment au Japon, cette défense à 3. Je trouve qu'on a concédé énormément d'occasions, énormément de situations dangereuses, et que Sergio Ramos, la bonne nouvelle, c'est qu'il est sur le terrain, mais la moins bonne, c'est que je l'ai pas trouvé très bon. Donc on verra avec le temps, même si l'ADN de cette équipe, Bilal, elle est forcément tournée vers l'offensive avec les joueurs qu'il y a, mais il va falloir aussi penser à replier, parce que ça n'a pas forcément était souvent le cas en préparation.
Et c'est ce qu'on attend de un peu la patte Galtier quelque part, c'est aussi mettre tout le monde au diapason sur ce repli défensif. Merci beaucoup Bilal, juste parce que Arthur, avant de te quitter, Stephen parlait des départs, oui. Il y a un nouveau joueur qui a été écarté du groupe hein.
Oui, c'est Thilo Kehrer qui s'est ajouté à la liste déjà de 5 joueurs jugés indésirables. Je vous les redonne: Kurzawa, Wijnaldum, Herrera, Draxler, Rafinha et donc Thilo Kehrer. Ces 6 hommes vont continuer de s'entraîner du côté du camp des loges, mais lorsque les deux groupes seront présents du côté de Saint-Germain-en-Laye, il y aura 2 séances d'entraînement distinctes. Donc voilà, pour l'instant, c'est les choix appliqués par Christophe Galtier qui, on le rappelle, veut un groupe moins important que celui de la saison passée.
Et il faut savoir que ça, c'est dans la légalité, jusque le mercato est ouvert.
Une fois
que le
mercato septembre.
C'est terminé, exactement. Le 1er septembre, si les joueurs qui étaient dans le loft sont toujours présents, ils auront l'obligation, le Paris Saint-Germain, de les faire s'entraîner avec le groupe.
Alors tu sais
c'est
que
l'article. C'est l'article 507 de la charte de la LFP, exactement, Stéphane.
Les clubs ont trouvé une parade, il y a groupe pro numéro 2, tu sais, on parle plus trop de loft, hein, tu sais. On a très bien compris évidemment l'idée, mais tu vois, on change des fois un peu le langage dans le foot.
Et pour revenir sur Thilo Kehrer, si le garçon aspire à jouer la Coupe du Monde, il va peut-être falloir songer à trouver un club pour jouer. Voilà.
Merci beaucoup Arthur Perrault en direct de Tel Aviv. Très bonne
salut
soirée messieurs. Qu'on imagine évidemment.
Salut Arthur, essaye de trouver, parce qu'au Japon tu nous as sorti des Kombawa et compagnie. Maintenant il va falloir te mettre à l'hébreu, mon grand.
Alors oui, bonsoir, ça se dit Erev Tov, mon cher Stéphane.
Très bien, Erev
Tov, merci beaucoup. Voilà. Arthur, avec Timothée Mémon, nos envoyés spéciaux pour vivre demain eh bien, les entraînements, conférence de presse de Christophe Galtier, ainsi que du capitaine, j'imagine, du Paris Saint-Germain, et puis Antoine Comboiré et le FC Nantes. Match à 20h dimanche, à vivre en intégralité sur RMC. On vient dans un instant, on continue de parler football et de Monaco, parce que Monaco la semaine prochaine a déjà une première échéance importante, ce match aller, troisième tour de qualification de Ligue des Champions face au PSV Eindhoven. On revient dans un instant dans l'Intégral Sport sur RMC.
RMC Intégral Sport,
Arnaud Valadon.
18h18 sur RMC, l'Intégral Sport jusqu'à 20h, toujours avec Stephen Brun. On vient de parler du Paris Saint-Germain qui jouera le Trophée des Champions face à Nantes ce dimanche. Il y a deux jours plus tard, mardi 20h, l'AS Monaco jouera gros un match important. Troisième tour de qualification aller de Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven. Gagner cette confrontation, puis ensuite gagner le barrage, offrira à l'ASM un ticket pour la phase de groupe. Et on retrouve Maxime Tillette, correspondant RMC Sport sur la Côte d'Azur. Salut Maxime.
Et salut Arnaud, salut Steve.
Salut Maxime.
Bonjour à tous.
Bon, comment vont les Monégasques? Parce que c'est vrai qu'on a vu il y a deux jours, mercredi, cette défaite pour le dernier match de préparation 3-1 contre Southampton. Et c'est vrai que ça a un petit peu alerté tout le monde.
Et ils vont bien, mais ce n'est pas encore panique à bord non plus. Certes, les résultats de cette préparation sont mitigés. 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites, notamment un 2-1 contre l'Inter Milan, une défaite 2-1 contre le FC Porto, et puis donc ce revers 3-1 contre Southampton mercredi pour boucler la préparation. Mais d'un point de vue physique, le groupe monte en puissance et même en avance par rapport à l'an passé. Les joueurs ont repris une semaine plus tôt pour ne pas revivre un revers en barrage comme contre le Shakhtar Donetsk, on s'en rappelle. Les Monégasques qui avaient même laissé des plumes, seulement un point pris en parallèle après 3 journées de championnat et puis autre pépin. Les internationaux comme Ben Yedder et Voland n'avaient eu qu'une petite dizaine de jours d'entraînement suite à leur participation à l'Euro. Cette fois-ci, tout le monde devrait être à 100%.
Prépa avancée, tu l'as dit, d'une semaine, c'est ça, par rapport à l'année dernière et ce Shakhtar Donetsk, c'est une semaine le décalage?
Ouais, c'est ça, une semaine. Ils ont repris le 18 juin. Et donc, pour être à 100%, on sait l'enjeu de ces tours préliminaires et barrages. Et puis, en plus, les Monégasques devraient être plus frais parce qu'ils ont joué donc mercredi leur dernier match contre Southampton. Le PSV jouera, lui, demain soir en Supercoupe des Pays-Bas contre l'Ajax Amsterdam à 20h. Philippe Clément et ses joueurs suivront ça sans doute d'un œil très attentif.
Très 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 curieux de voir ce que va faire Ruud van Nistelrooy à 3 jours d'un match qualificatif pour la Ligue des Champions. Est-ce qu'il va préserver ses cadres ou justement est-ce qu'il va jouer, parce que l'année dernière ils l'ont gagné déjà cette Supercoupe des Pays-Bas contre l'Ajax. Je suis très curieux de voir les premiers décisions de Ruud van Nistelrooy alors que l'échéance qualification Champions League est très importante 72 heures après.
Puis qu'on a vu le PSV qui a éliminé l'Olympique de Marseille en Conference League, on a vu que c'était chaud là-bas, le match retour aura lieu au Philips Stadium. Comment on est l'état d'esprit des Monégasques? Il y a plutôt de la confiance, on se dit on doit obligatoirement passer. Comment sont-ils un petit peu des déclarations qu'il y a eu notamment après le match contre Southampton?
On essaye de faire preuve au maximum de sérénité, pas forcément rappeler toujours rabâcher cet échec face au Shakhtar la saison passée qui avait coûté la peau sur le banc de Niko Kovac après quelques mois. Et puis pour répondre présent le jour J et répondre notamment présent physiquement, la direction sportive a décidé de renforcer la profondeur de banc. On a vu notamment arriver en attaque Takumi Minamino, le japonais de Liverpool, et puis le suisse Brel Mbolo de Mönchengladbach. Ça va permettre de s'appuyer sur un effectif un petit peu plus large. En revanche, gros point d'interrogation suite au départ d'Aurélien Tchouaméni qui n'a toujours pas été compensé.
Départ de Tchouaméni, évidemment. Oui, devant, oui, ça oui. Se densifie. C'est vrai que parfois, on avait l'impression que ça manquait peut-être un peu de qualité, oui. Quand Ben Yedder baissait un petit peu le pied, Voland aussi.
Ouais, après Ben Yedder baissé de pied, il a pas souvent baissé de pied Ben Yedder depuis qu'il est à Monaco, mais c'est vrai que Folland
quelqu'un au relais.
Folland a fait une saison en demi-teinte la saison dernière. Maintenant ils ont Minamino et surtout ils ont un garçon qui pour moi est très fort quand il est en bonne santé, qui peut enchaîner les matchs, et c'était le cas sur cette pré-saison, c'est Golovin. Golovin est peut-être le meilleur joueur de cette préparation de l'AS Monaco. Après oui, Tchouaméni pas remplacé au milieu sur le dernier match contre Southampton, c'est Matadzo, Fofana, Vanderson qui composait le milieu terrain, ça reste quand même solide. En défense, c'est des garçons qui se connaissent bien, Maripán, Disasi, Aguilar, Henrique. On parlait tout à l'heure pour le FC Nantes, une équipe qui se connaît bien, cette équipe monégasque, elle se connaît bien aussi, il n'y a pas eu énormément de changements. Minamino est un joueur de très haut niveau qui a côtoyé Jürgen Klopp, donc qui peut facilement rentrer dans le dispositif de Philippe Clément. Donc pour moi, ils ont des repères, ils sont en avance sur le PSV Eindhoven. Maintenant, il va falloir montrer sur le terrain. Et ce premier match, mardi, il est important à Louis II.
Je remercie Stanislas sur l'hashtag RMC Live. Je dis une sottise. Oui, c'est Feyenoord Rotterdam qui a sorti l'Olympique de Marseille et pas le PSV.
Et le PSV a terminé bien loin devant le Feyenoord Rotterdam en championnat. Le PSV qui vient mourir à 2 points ou 3 points de l'Ajax. Ouais.
Avec ce match aller, est-ce que ça déchaîne un peu les foules ou pas à Monaco à Louis II? Voilà, ce match de reprise, on est encore en plein mois d'août. Est-ce qu'on en parle ou il reste encore un relatif anonymat, Maxime?
Non, on en parle parce qu'on est conscient de l'enjeu, et puis vous le savez, sur la Côte d'Azur, pas mal de touristes sont présents en ce moment, les juilletistes, les aoussiens qui arrivent également, donc il y a un petit engouement pour ce duel. On garde tous en tête la contre-performance face au Shakhtar.
Toi qui connais bien la Côte d'Azur, ce serait pas un petit match à Louis II comme ça?
C'est très agréable, début août, d'aller à Louis II. Tu mets ton petit Bermuda, ton petit polo, tu vas avoir un bon match de foot avec des bons joueurs sur la pelouse. Et puis peut-être qu'il y a certains joueurs de l'équipe de basket de Monaco qui sont dans le coin et qui auront aussi profité de ce match-là. Mais c'est vrai que Monaco va avoir besoin du public. On sait que le match retour au PSV sera chaud, bien plus chaud que ce qui peut être mardi à Louis II. Non, mais j'espère qu'il y aura du monde à Louis II pour pousser les joueurs de Philippe Clément, parce qu'on a besoin d'une troisième équipe en Champions League pour que les semaines soient palpitantes. Elles sont sympas, les semaines de Coupe d'Europe, si t'as le PSG, si t'as l'OM, si t'as l'AS Monaco en Champions League.
Ah bah les semaines passent vite, hein.
Eh bah oui.
Un petit mot sur le 11 qui s'est dégagé contre Southampton et qui pourrait ressembler au 11 de départ de Philippe Clément contre le PSV, Maxime.
Alors il y a quelques certitudes, mais aussi pas mal de points d'interrogation tout de même. On a évoqué cet effectif assez large. Philippe Clément a testé le 3-4-3, le 4-4-2 également. C'est le 4-4-2 qui garde une petite longueur d'avance à cet instant, avec notamment Nubel dans les buts. À droite, Aguilar. L'axe à choisir parmi Disasi, Maripán et Badiachil selon son état de forme. Caio Henrique à gauche. Donc là, c'est du classique. Hein, tous des joueurs qui étaient présents la saison passée. Idem au milieu, avec Youssouf Fofana qui sort d'une grosse prépa. Et Jean-Lucas ou Elliot Matadzo qui devrait prendre place dans l'entrejeu avec lui. Golovin, on l'a évoqué, a été très performant, devrait tenir le couloir gauche. Vanderson, le droit. Et puis devant, Ben Yedder qui a marqué à 3 reprises cet été. Il est indéboulonnable. À côté de lui, Minamino ou Voland sont les principales options. Et dans ce cas, sur le banc, on pourrait donc retrouver des joueurs comme Gelson Martins ou encore Brel Embolo pour dynamiter la défense du PSV en fin de match.
C'est quand même plaisant, ça donne envie, parce qu'en plus il y a cette continuité, même si voilà, la 38e journée à Lens fut un petit peu cruelle, Stephen, on sent quand même, on ne voit que cette équipe progresser finalement.
Après, on se rappelle tous quand même de cette fin de saison monstrueuse des Monégasques qui leur permet justement de jouer aujourd'hui ce tour de qualification de la Ligue des Champions, parce qu'à un moment donné, rappelez-vous, au milieu de saison, ils étaient très loin, Philippe Clément était à moitié sur la sellette ou pas, il a pris des coups de pression, et ça a peut-être été la meilleure équipe de la fin de saison, Monaco, si on met le PSG de côté. Donc moi j'y crois fort à cette équipe monégasque, et puis j'ai envie de voir des garçons comme Ben Yedder, comme Youssouf Fofana se frotter au très haut niveau, parce qu'un garçon comme Ben Yedder jouer l'Europa League, j'aime bien, mais j'ai l'impression que son niveau quand même, un petit Wissam, c'est plus la Ligue des Champions.
Merci beaucoup Maxime, on te retrouve évidemment.
Petit avantage dans les têtes. Monaco, l'an passé, s'était imposé 2-1 au Philips Stadion en Europa League. Début de Boadou et Diop. Et puis, ça avait fait 0-0 à Louis II. Donc, les équipes se connaissent plus ou moins. Et dans les têtes, ça peut aussi jouer.
Rendez-vous 20h mardi à Louis II. Avec toi, aux commentaires, notamment pour ce Monaco PSV Eindhoven. Troisième tour de qualification de Ligue des Champions. Ce match, allez, bonne soirée, Maxime.
Bonne soirée.
Ciao.
Et on revient dans un instant dans l'intégral sport. On va parler Ligue 2 parce que ça démarre ce week-end. Et évidemment, cette première journée de Ligue 2 à suivre sur RMC avec dès 15h, Dijon-Saint-Etienne. Mais nous, on va voir un joueur qui a eu un peu plus de rap. C'est Paul Lannes, le nouveau milieu du Paris Football Club. Paris qui jouera lundi face à Sochaux. Le PFC toujours candidat à la montée. Paul Lannes sera notre invité dans un instant dans l'intégral sport.
RMC, intégral sport.
Arnaud Valadon.
18h32, soyez prudents évidemment sur la route si vous nous écoutez en voiture. En tout cas, on est heureux de passer cette fin d'après-midi de ce vendredi 29 juillet en votre compagnie avec Stephen Brun toujours. Et demain, un peu de football français qui revient un peu beaucoup même avec la Ligue 2 qui débutera sa saison avec à 15h Dijon-Saint-Etienne, puis le multiplex de 19h à suivre évidemment sur RMC. Mais eux, ils ont gagné quelques jours de préparation. En plus, Sochaux et le Paris FC n'entreront en lice que lundi. Et notre invité ce soir est le nouveau milieu de terrain du Paris FC, Paul Lannes. Bonsoir Paul.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Salut Paul.
Merci d'être avec nous. Alors, tu vas devoir attendre lundi. Généralement, quand on sort d'un bon bloc de préparation, de quoi 6-7 semaines, certes avec quelques matchs amicaux, mais là de voir que les équipes, que les adversaires reprennent dès demain et vous attendre lundi, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'impatience qui se fait sentir?
Oui, on a les jambes qui picotent un petit peu. C'est clair que la préparation, comme vous le dites, dure 6 semaines, donc c'est assez long. Évidemment, il y a beaucoup de réglages à faire et puis il faut se remettre à niveau physiquement, mais c'est évident qu'on a maintenant hâte d'entrer dans le vif du sujet sur une saison qui s'annonce particulièrement haletante et très longue aussi.
Et la préparation, justement, il y a eu Thierry Loret, le coach du Paris FC, a souligné du bien, du moins bien. C'est vrai que dans le moins bien, il pointait un petit peu ce match contre l'UNFP, cette sélection de joueurs au chômage. Et puis finalement, il y a ce match contre l'AC Ajaccio, un club que vous connaissez bien évidemment, Paul, qui a donné plutôt satisfaction au coach. Comment tu jugerais cette préparation normale avec des hauts et des bas? Et ça fait partie du lot de ces phases-là?
Oui, bien sûr, faut jamais s'affoler durant les périodes de préparation, puisque tous les joueurs ne sont pas au même niveau physique. Il y en a qui arrivent en cours de route. On a évidemment beaucoup d'entraînement, donc une charge physique qui est un peu plus importante qu'en saison. On a les jambes bien chargé en préparation physique, donc évidemment les matchs parfois ne ressemblent pas à ce qu'on aimerait, mais il faut pas s'affoler. Évidemment, il faut gommer les choses qui nous paraissent un petit peu superflues et pour garder l'essentiel, c'est d'être efficace, et on commence à voir se dessiner dans l'équipe quelque chose d'assez solide. Donc on est satisfait, et puis on va essayer de concrétiser ça par un bon match à Sochaux.
Paul, parle-nous toi de ton arrivée au Paris FC. Tu étais un joueur de Brest en Ligue 1 la saison dernière. Est-ce que t'aurais aimé continuer en Ligue 1, ou c'est un choix, tu expliques, parce que t'as un choix familial, t'es né à Saint-Cloud, tu rentres dans la région. Explique-nous ce choix justement de venir en Ligue 2 au Paris FC.
Oui, c'est un vrai choix de ma part. Je pense que j'aurais eu l'opportunité de continuer en Ligue 1, mais il y a 33 ans aussi l'aspect familial qui entre en ligne de compte. J'ai ma femme et mes enfants qui me suivent depuis de longues années, et il faut parfois savoir aussi écouter ce que la famille a sur le cœur. Et je sentais bien à la fin de cette troisième saison à Brest qu'il était temps pour nous de changer d'air. Et quand l'opportunité du Paris FC s'est présentée, c'était l'occasion pour nous de rentrer, de se rapprocher un petit peu de la famille, et de retrouver un équilibre familial qu'on avait un petit peu perdu. Et on sait aussi qu'un joueur, quand il est bien dans sa vie personnelle, ça se reflète sur le terrain. Donc je pense que c'était à la fois un choix sportif, puisque le Paris FC met en œuvre beaucoup de choses pour essayer de monter en Ligue 1. C'est un club ambitieux. Et à la fois, c'est aussi un projet plus personnel pour me permettre et permettre à ma famille de revenir en région parisienne.
C'est 10 ans de Ligue 1, hein, Paul Lannes. Il y avait eu
281 matchs
avec la montée avec Ajaccio. Ouais, plus de 280 matchs disputés dans l'élite, et peut-être pas terminé, parce que tu viens de le dire, Paul, l'objectif du PFC, et ils sont toujours. Alors là, les 5 ne permettront pas de monter puisqu'il y a que 2 montées directes, mais il y a toujours ces barrages que le PFC a l'habitude de disputer, d'être toujours dans les premières dernière position. Il y a voilà vraiment cette envie à titre personnel, l'objectif collectif du club, monter en Ligue 1, mais aussi à titre personnel de refaire une montée comme tu as pu faire avec la CA au début des années 2010.
Oui, ça va être une Ligue 1 bis, j'ai l'impression, cette saison, parce que je pense qu'il y a une bonne dizaine d'équipes qui aura l'ambition de jouer le haut de tableau, et avec évidemment des favoris. Je pense qu'on se situe dans la catégorie des outsiders, et on essaiera de justement jouer les troubles faites, mais ça va être une Ligue 2 qui va être très relevée certainement cette saison, avec trois équipes de Ligue 1 qui sont descendues, avec le maintien finalement de Bordeaux dans cette Ligue aussi. Donc ça va être un championnat très intéressant et aussi un petit peu particulier avec cette Coupe du Monde qui vient s'intercaler en pleine saison. Donc ça va être aussi une saison un petit peu spéciale, où il va falloir être frais et prêt tout de suite pour enquiller les 15 premiers matchs avant la coupure un petit peu prématurée, puisqu'ensuite on va avoir un long marathon jusqu'au début du mois de juin. Donc ça va être aussi assez intéressant de voir comment les équipes vont s'adapter à ce rythme de championnat qui sera un peu différent.
Paul, t'as quitté un coach, Michel Derzakarian, qui est pas connu pour être un joyeux luron. Est-ce que Titi Loret, il est un peu plus funky que Michel Derzakarian?
Oui, c'est vrai que coach Derzak est bien connu pour son humour ravageur. C'est vrai qu'il est assez dur, assez exigeant, mais c'est ce que demande aussi la Ligue 1. C'est un championnat qui demande beaucoup de sérieux et beaucoup de discipline. Donc évidemment, le coach Derzak essaie de nous inculquer cette idée-là. Le coach Loret est très exigeant aussi. Il est très franc, très direct dans sa manière de nous expliquer les choses, mais il est capable aussi de déconner, de d'ouvrir la discussion. Et je trouve pour l'instant que la relation entre le staff et les joueurs est très bonne. Et de toute façon, c'est indispensable si on compte aller loin dans ce championnat, puisque l'unité dans un groupe, mais je parle pas uniquement des joueurs, ça passe par le staff médical, le staff technique, les joueurs, les gens qui travaillent vraiment dans le cercle proche des joueurs. Tous doivent être unis pour ensemble aller vers le même objectif. Donc pour l'instant, ça se passe très bien.
Pour les avoir côtoyés, voilà, titre perso professionnellement, Michel Derzakarian et Thierry Loret.
T'as côtoyé les deux, toi ?
Oui, à Reims, Michel Derzakarian et un petit peu Thierry Loret à Strasbourg et au Paris FC, ce sont les mêmes. Avec les journalistes, qu'avec leurs joueurs, ou voilà, aussi dans l'intimité du vestiaire, ils ont vraiment les mêmes traits de caractère. C'est pas forcément tous devant la presse, on peut avoir des discours un peu différents. Et pour le coup, là, c'est vrai, deux entraîneurs qui, je trouve, se ressemblent un petit peu. Paul, les Girondins sont un club qui a beaucoup compté pour toi après formation. Est-ce que tu as suivi un petit peu le feuilleton avec un regard particulier de ce sauvetage trois jours avant le début du championnat?
Ouais, j'ai suivi comme tout le monde d'assez loin.
Ah, la relation vient de se couper.
Dès qu'on parle des Girondins, tac, ça coupe.
Eh oui, ça coupe pour
c'est Gérard Lopez qui a coupé la ligne.
Ah oui, Paul Lannes, parce que c'est vrai qu'on a connu à Montpellier, on a connu à Brest. Paul, tu es de retour, oui.
Oui, vous m'entendez?
Oui, on t'entend.
Ouais. Oui, je disais que je suis très heureux que les Girondins de Bordeaux soient maintenus, puisque c'est un club que j'ai dans le cœur, évidemment, ayant fait presque une décennie là-bas. Mais j'ai suivi un petit peu l'actualité d'assez loin, puisque comme je disais, c'est très difficile de voir ce qui se passe en coulisses, et je comprends pas grand-chose à toutes ces histoires de toutes ces histoires financières. Donc ça donnera une Ligue 2, comme je le disais tout à l'heure, alléchante. Et justement, on jouera contre Bordeaux, nous, le 2 septembre à Charletti pour une belle affiche, et j'espère que le stade sera bien rempli.
Paul, est-ce que ton ancien coéquipier et capitaine du stade brestois, Brendan Chardonnay, t'a initié au Moscato Show un petit peu?
Pas du tout.
Après,
Brendan, c'est le Moscato Show en permanence dans le vestiaire. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, ça, on peut dire qu'il m'a un petit peu initié. Mais Brendan, c'est un sacré personnage et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
Tiens, au 32-16, on a Guy qui nous a appelé. Bonjour, Guy.
Bonjour.
Guy, il a vos Guy ?
Non, mais Guy connaît Paul Lannes. Il l'a connu quand il avait 12-13 ans à Bordeaux. Je ne sais pas si ça te parle, Paul.
Paul, bonjour.
Alors, Guy Lyon, ça te dit bonjour. Ah, Guy Lyon, évidemment, bien sûr. Je pense que tout est parti de là. Sans Guy Lyon, je serais peut-être jamais devenu joueur de foot. En tout cas, c'est le c'est ce monsieur-là qui m'a permis d'intégrer le centre de préformation à l'époque. Et je garde évidemment un très bon souvenir de Guy. Il avait son bureau au centre de formation, au fond à droite du couloir, je me souviens très bien.
Exactement, Paul. Eh ben, écoute, je suis fier de te saluer. C'est vrai que je t'ai fait venir au Girondin, tu avais 14 ans. Tu étais à Boulogne-Billancourt, il me semble, non?
Exactement.
Ah, tu vois ma mémoire. Je te félicite pour ta carrière, ta longue carrière dans des clubs pas évidents. Mais bon, la durée est excellente et puis la reconversion se dessine. Donc, félicitations et très content de t'avoir au téléphone.
Tu étais, ah bah merci Guy, merci, ouais. Ça fait plaisir, effectivement.
Ah bah c'était un régal d'avoir des gamins comme toi. Maintenant tu n'es plus un gamin, mais c'était un régal à cette époque-là. Voilà, un de mes fiertés du centre de préfo des Girondins pour tout, pour ton comportement et tes qualités. Voilà.
Bah, c'est gentil Guy, merci beaucoup.
Guy, c'est parce que t'as pas vu le nombre de fois il a fait le mur en cachette pour sortir. Hein. C'est pour ça que tu penses que c'est un bon gamin.
Bah, c'est vrai que c'est arrivé qu'on fasse le mur avec quelques-uns, mais bon, ça c'est la loi des centres de formation. Ouais. Quand on a 17 ans,
ah là, oui.
on fait le mur deux, trois fois pour se mettre un peu en danger, c'est normal.
Non, non, mais celui qui faisait pas le mur au Girondin était pas normal.
Bah voilà.
Et bah, merci beaucoup Guy pour ce petit coup de fil.
C'était un plaisir d'avoir Paul et puis encore félicitations. Je lui souhaite un bon séjour au Paris FC. Et puis félicitations aussi pour sa début de reconversion qui me paraît intéressante. Voilà.
Ben merci beaucoup.
Merci beaucoup Guy d'avoir appelé le 32-16.
Et Paul, t'as pu croiser Rai un peu, qui est le nouvel actionnaire du Paris FC. T'as pu discuter un peu avec lui?
Non, on l'a pas croisé encore. Je pense que on devrait peut-être le rencontrer d'ici quelques semaines, mais pour l'instant non, on n'a pas discuté avec lui encore.
Très bien.
Et bien, merci beaucoup, Paul.
Merci,
bonne reprise
Paul.
Ce lundi à Sochaux pour le Paris FC. Sochaux qui avait battu en barrage le Paris FC. Ils ont pas de bol, les joueurs du PFC, parce que il y a l'année dernière, ils avaient débuté la saison contre Grenoble, qui avait battu il y a 14 mois le PFC en barrage. Donc Thierry Loret, il voit un peu un signe, mais ils avaient gagné 4-0, je crois, la première journée l'année dernière face à leur bourreau des barrages. Donc on vous souhaite évidemment le même résultat, Paul.
Eh bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.
Merci beaucoup. Au plaisir, évidemment. 18h43 sur RMC. On revient dans un instant. On va parler de Paul Pogba, qui pourrait manquer la Coupe du Monde suite à une blessure. Et on va également parler du Community Shield.
C'est un Paul en cache un autre, alors. Après Paul Lann, Paul Pogba.
Exactement.
Il y en a un qui est en mieux senti que l'autre, par contre.
Ah oui, Paul Lann, je peux dire qu'il cavale. Et encore, c'est un super joueur. On est content de le suivre toujours, évidemment, en Ligue 1 et en Ligue 2 cette année avec le PFC. Donc, on va parler de Paul Pogba et du Community Shield. Shield, c'est le trophée des champions anglais, si on veut, mais c'est un nom beaucoup plus classe.
Community Shield.
Entre Manchester City et Liverpool, on en parle dans un instant dans l'Intégral Sport.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
18h49 sur RMC, on est ensemble jusqu'à 20h, toujours avec Stephen Brun. Ça va, Steve? Toujours
En pleine forme, vivement quand même la 19h45. Qu'on puisse parler d'un vrai sport, Arnaud.
19h30,
basket.
Et oui, et on va parler même avant de tennis aussi, qui est un autre vrai
mais
sport.
Voilà,
pour
ça
toi.
C'est magnifique, parce que la première heure, le foot, c'est bien, mais parlons de vrais sports intéressants, le basket, le tennis, des choses comme ça.
On aura du rugby à 19h avec Fulgence Ouédraogo,
qui va faire son
jubilé avec Louis Picamol, avec François Trinduc demain à Montpellier. Et effectivement, à 19h30, Edwin Jackson, l'arrière international, à plus de 50 sélections. Edwin qui passera nous dire, faire un coucou, on va parler de lui, et puis surtout de l'Eurobasket, puisque les Bleus en basket ont commencé aujourd'hui leur préparation à l'INSEP avec Rudy Gobert, avec Evan Fournier. Mais avant cela, comme promis, Paul Pogba, la Coupe du Monde en pointillé, même gros point d'interrogation pour le milieu de la Juve. On accueille Nicolas Pelletier de la rédaction. Bonjour Nicolas.
Salut à tous.
Salut Nicolas.
Le milieu de terrain s'est blessé lors du stage de pré-saison aux États-Unis où il est avec la Juve. Et c'est vrai que Nicolas, cette lésion au ménisque du genou droit pose un défi pour la médecine, mais aussi pour Paul et son clan.
Oui, on rappelle qu'il s'est blessé tout seul hein, lors d'un exercice technique. Et depuis la blessure, en fait, la Juve et le milieu de terrain français ont sondé trois médecins reconnus au niveau européen et spécialisés dans le genou. L'Espagnol Ramon Cujal, l'Autrichien Christian Fink. Ces deux médecins sont très reconnus. Ils ont opéré plusieurs grands noms du football. Le premier, d'ailleurs, est très proche de Pep Guardiola. Et en France, le docteur Sonnery Côté, chirurgien au centre orthopédique de Lyon, n'a pas encore vu Paul Pogba, mais il devrait l'examiner dans les prochains jours. On le rappelle, ce dernier a quand même opéré Zlatan fin mai et il est très reconnu au niveau européen pour ce style d'opération, mais ça pose quand même la question de Paul Pogba, son avenir et surtout de sa Coupe du Monde. Parmi les options, il y en a plusieurs possibles. Il y a deux options possibles pour Paul Pogba. Ce dont on est certain, c'est que le milieu ne veut pas faire d'infiltration pour cette blessure, donc il devra faire un choix après la prise de contact avec les deux médecins. La première, c'est la moins longue pour un retour à la compétition, le plus rapidement possible. Une, je vais être précis, le méniscectomie sélective, en d'autres termes, une ablation du morceau du ménisque endommagé. Cette opération entraîne un très gros travail musculaire après l'acte. Et sur le long terme, le genou reste plus fragile. C'est cette donnée qui peut inquiéter l'entourage de l'international français. Pour un retour sur les terrains, il faut en compter entre un mois et demi et deux mois maximum, ce qui pourrait permettre à Paul Pogba d'être présent pour le mondial. Et il y a une autre option pour le français, la plus longue. Pour un retour sur le terrain, il faut compter entre 3 et 5 mois pour revoir le joueur sur une pelouse. Après cette opération, cet acte consiste à ressouder le ménisque. Mais cette opération entraîne un quasi-forfait de Paul Pogba pour le Mondial 2022.
Ouais, après, même la première solution, pour moi, elle est pas. Tu parles de 2 mois d'arrêt.
Voilà, on est 2 mois d'arrêt. Il y a une trêve à la fin du mois de septembre avec l'équipe de France et la liste sera normalement annoncée à la fin du mois d'octobre.
Donc ça veut dire que tu récupères Paul Pogba qui n'a pas joué un match officiel en saison et tu le prends dans le groupe pour faire la Coupe du Monde.
Mais moi, avec 2 mois d'arrêt, il n'est pas forfait pour le mondial. L'autre, avec 3 à 5 mois d'arrêt, il est quasi forfait dès maintenant.
Bon, on a un garçon qui s'appelle Aurélien Tchouaméni, qui a été titulaire lors de la Ligue des Nations, qui est très bon, qui est très performant. Moi, je pense qu'il faut plutôt envisager cette solution-là, parce qu'aujourd'hui, Paul Pogba, quelle certitude on a, à part qu'on nous répète sans cesse, dès qu'il arrive avec l'équipe de France, il est bon. D'accord, mais 2018, c'était très loin. Je pense qu'il faut que Paul Pogba, s'il a envie de continuer à jouer au plus haut niveau, qu'il fasse la vraie opération et qu'il puisse être compétitif pour quoi, éventuellement espérer un retour en équipe de France, mais après la Coupe du Monde.
On a une idée de la réaction des staffs. Alors la Juve, évidemment, voit plus sur le long terme.
La Juve voit sur le long terme, donc elle demande la deuxième opération, celle qui est la plus longue et qui nécessite 3 à 5 mois d'arrêt. Et pour l'instant, au sein du staff des Bleus, on se dit confiant et on attend de savoir le choix de l'intervention que va faire Paul Pogba pour la suite de sa carrière et surtout la suite pour le Mondial 2022.
Ça permettra peut-être à Adrien Rabiot de rester à la Juve si Paul Pogba est out.
Ça peut avoir une influence, les médias italiens.
Docteur Stephen Brun, le ménisque, oui. Les basketteurs sont aussi concernés par ça. On parle beaucoup des ligaments croisés, mais le ménisque, déjà, ça n'a rien à voir, c'est le haut du tibia, mais ce sont des blessures qui peuvent être vraiment handicapantes pour une suite de carrière. On a vu pas mal de joueurs s'arrêter pour le ménisque, non?
T'es vraiment en train de me poser une question de médecine, là. Docteur Raboul, basket, oui. Les ligaments croisés sont plus courants que le ménisque, mais c'est une blessure qui est
sur l'usure.
Handicapante. Après, le médecin que je connais, qui est à Lyon, qui a opéré aussi des grands basketteurs, professeur Cédric Côté, qui a opéré aussi Michael Jabal, fait du bon travail. Mais le ménisque, oui, c'est handicapant, au même titre que les ligaments croisés, même si c'est moins grave. Et tu t'en remets un plus rapidement. Maintenant, pour Paul Pogba, moi, j'opterai pour la vraie opération, celle qui lui permettra de jouer encore plus de temps, parce que le palliatif, couper un petit bout de ménisque, ça veut dire que ton genou, malgré tout, reste fragile et que t'es pas à l'abri d'une rechute. Donc oui, ça peut être dur pour Paul Pogba de louper cette Coupe du Monde. Après, le garçon, faut voir ce qu'il veut faire aussi par la suite. Hein. S'il veut continuer à jouer 2, 3, 4 ans au plus haut niveau, je pense qu'il faut opter pour la grosse opération. Après, il fera ce qu'il veut, hein, Polo. Il fera un documentaire pour nous expliquer ce que
c'est la façon. Il aura le temps. Pogba, documentaire 2.
Pog Doctor.
Merci beaucoup, Nicolas Merci Pelletier, de la rédaction. Ce week-end, il y aura du foot en Angleterre. Il y aura évidemment la finale de l'Euro féminin avec l'Angleterre face à l'Allemagne, mais aussi le Community Shield Liverpool contre Manchester City. On accueille Flora Moussi de la rédaction de RMC Sport. Bonsoir Flora.
Salut à tous.
Salut Flo.
Liverpool contre City, déjà un gros choc. C'est déjà un match qui n'aura pas lieu à Wembley. Ben oui, à Londres.
Ben exactement, ce sera dans le stade de Leicester pour le coup, parce qu'effectivement, tu l'as rappelé qu'il y a la finale de l'Euro féminin le lendemain, donc le dimanche à Wembley. Et là, c'est vrai que c'est un peu la tradition qui vacille hein, quand même pour les Anglais, parce que le Community Shield, nous, le trophée des champions, on le délocalise, mais pour le coup, en Angleterre, ça a vraiment une vraie importance entre le vainqueur du championnat et le vainqueur de la Coupe d'Angleterre. Donc là, c'est déjà la tradition qui est un peu bafouée quand même.
Et ce choc pour commencer, donc à 18h demain, moi, je vois le City avec Erling Haaland, que j'ai envie de voir, évidemment, et Darwin Núñez aussi du côté de Liverpool.
Ouais, c'est un peu le choc des nouveaux attaquants, en fait, des deux côtés. Il y a Haaland qui a débarqué à City, qui a marqué déjà pendant la pré-saison face au Bayern, qui a marqué un but. Núñez, il a été un petit peu raillé quand même du côté de Liverpool. en fait, les supporters de Liverpool ont un peu la haine quand même que Mané soit parti. Pour le coup, ils ont un petit peu du mal à digérer son départ et que Núñez soit arrivé pour un prix en plus assez exorbitant. 75 millions quand même ont été mis sur la table pour lui, alors qu'il n'a pas encore prouvé que dans un club de haut niveau, il est capable de performer comme ça. Donc, il y a beaucoup de pression quand même sur lui. Il a mis un quadruplé contre Leipzig, ça a un petit peu calmé tout le monde. Mais c'est vrai que la pré-saison de Liverpool, elle n'est pas ultra rassurante parce qu'en plus, Klopp n'a pas eu son groupe au complet en permanence. Donc, on ne sait pas trop ce que vaut en fait Liverpool actuellement, donc ça redonne un peu d'intérêt aussi encore à cette affiche.
Avantage à City qui est là avec sa force de frappe allant devant. On se disait déjà si on rajoutait un vrai neuf à ce 11 de Guardiola, là on peut les penser injouables.
Ouais, alors je vais être très curieux de voir parce que ça fait pas mal de temps que Pep Guardiola n'a pas joué avec un vrai neuf. Donc je veux voir comment Pep Guardiola va utiliser les qualités d'Erling Haaland. Il y a Calvin Phillips aussi qui est arrivé, à voir comment il s'intègre. Maintenant du côté de Liverpool, j'ai vu que Jurgen Klopp en conférence de presse prenait déjà la défense de Darwin Núñez et du jeune Fabio Carvalho qui est arrivé de Fulham. C'est compliqué pour Núñez, 75 millions direct à la pression du montant parce que les gens aujourd'hui regardent que ça. Lui, il vaut 75 bars, il n'est pas capable d'être aussi performant. Il va vite être comparé à Sadio Mané qui était une légende d'Anfield. Donc il va falloir que Jürgen Klopp soit très bon dans la com et que Darwin Núñez soit très bon dans la tête. Mais je suis pas inquiet pour le garçon qui a quand même du talent et devrait briller parce qu'il y a des joueurs à Liverpool pour faire briller de ces garçons-là.
Et des fois, le prix du transfert peut être lourd à Liverpool. On se souvient quand ils avaient lâché les 50 millions sur Andy Carroll dans les années 2013, ça avait fini la carrière d'Andy Carroll.
Il y a toujours des petits flops dans l'histoire, mais là, c'est vrai qu'il est quand même bien entouré. La pression au niveau de l'attaque, elle est surtout sur Salah parce que lui, il se retrouve un peu comme la superstar de l'attaque de Liverpool maintenant que Mané est parti. Tout va reposer un petit peu sur lui. Mais c'est vrai que voilà, Liverpool jouait aussi un peu sans vrai numéro 9 au final jusque-là parce que Mané n'était pas vraiment un vrai numéro 9, donc ça tournait un petit peu. Là pour le coup, Núñez il va vraiment être en 9 et après à voir comment ça s'articule avec Luis Diaz peut-être ou avec Firmino, où on verra comment ça tourne parce que là Diogo Jota est blessé, il sera pas là du coup pour le Community Shield demain.
Il y a du monde quand même à Liverpool.
Il y a quand même du monde. Voilà, j'ai cité deux trois petits noms, ça va sur le papier, ça reste quand même bien, mais après c'est à voir en fait comment, parce que Klopp a pas eu son groupe au complet jusque-là, donc la saison elle va débuter, on le rappelle, la semaine prochaine quand même en Premier League, donc ça va être donner un premier avant-goût parce que Liverpool City, on va pas se mentir que c'est encore une fois entre ces deux-là a priori que le titre va se jouer en Angleterre.
Merci beaucoup Flora.
Voir aussi le petit Bernardo Silva s'il va jouer, vu que lui il a des
vérités sur son avenir. Et ça pourrait lui à Lucas Paqueta aussi, tout ça qui pourrait débarquer en Angleterre.
Pourquoi pas. Eh oui. Merci beaucoup Flora et tu seras de retour dans ce studio lundi.
Exactement.
Pour l'Intégral Sport.
C'est ta première à la radio.
C'est ça.
T'as la pression.
De ouf.
Elle est venue te voir un peu pour comment ça se passe.
Oui, c'est sûr qu'avec moi, elle n'aura pas la pression.
Ça détend.
Merci beaucoup, Flora. Juste, tiens, une information pour les Rennais. C'est officiel pour un défenseur international belge, Arthur Théat. Il arrive de Bologne, 20 millions d'euros. Et un autre défenseur va arriver, Joe Rondon. Il joue à Tottenham. Et selon Fabrizio Romano, le journaliste très bien informé, ce défenseur central arriverait sous forme de prêt avec une option d'achat à 20 millions d'euros. On voulait du renfort du côté de Bruno Genesio. Et ben il les a enfin, ces deux défenseurs centraux. On revient dans un instant dans l'Intégral Sport. On va mettre un petit peu le foot de côté. On va parler rugby. Fulgence Ouedraogo qui fêtera son jubilé demain à Montpellier avec François Trinduc et avec Louis Pricamol sera notre invité. À tout de suite sur RMC.